Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Bon appétit, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi en direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et nous sommes avec l'équipe très heureux de vous accompagner durant votre pause déjeuner. Dans quelques minutes, Androse Jankovic va nous rejoindre. Elle va recevoir Thibaut Laguens qui sera ordonné diacre dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. C'est pas ce week-end, c'est dimanche prochain, le 6 septembre prochain. Il sera interrogé donc sur notre antenne dans quelques instants. Le deuxième invité au micro d'Androse, c'est Thibaut Lebon. Il est coordinateur du pôle annonce de la foi dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Il va nous parler d'une grande journée pour les enfants et les jeunes. Cette journée aura lieu le même jour, le 6 septembre prochain. Invité à écouter dans les prochaines minutes. Et puis dans cette émission également, nous dirigerons du côté de Bayonne. Pourquoi Bayonne? Eh bien parce que Nathalie Chambon, la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, sera avec nous pour détailler l'agenda. Un agenda assez chargé pour les prochains jours dans le diocèse. Et puis, direction les Pyrénées, avec, comme chaque jeudi, Anne Lasserre et le regard des écrivains sur les Pyrénées. L'écrivain qu'elle a sélectionné cette semaine s'appelle Bourneton. Il nous fera voyager dans les Pyrénées. Mais pour débuter son Présence Midi, on retrouve Enzo Basile pour l'essentiel de l'actualité régionale avec les titres.
À la une, ce jeudi, important incendie agricole à Aurillac sur Vendinelle dans le Lauragais. Un hangar de stockage a été entièrement détruit par les flammes parties d'une moissonneuse-batteuse victime d'un court-circuit sans faire de blessés. En Ariège, d'importants travaux débutent le 31 août sur la RD46 à Boussenac. Pour sécuriser un glissement de terrain, la route sera fermée en semaine aux heures de chantier jusqu'au 11 septembre. En Aveyron, les agriculteurs touchés par les pluies excessives de début d'année vont pouvoir être indemnisés après leur reconnaissance de la calamité agricole. Ils ont jusqu'au 5 septembre pour déposer leur demande sur le site de la préfecture. Alerte moustique tigre à Mirande dans le Gers, où une opération de démoustication a été menée cette nuit après la présence d'une personne suspectée d'être atteinte d'une maladie transmise par ce moustique. Et puis à Cahors, un vaste chantier de 10 mois démarre le 7 septembre pour réaménager la place Chapou, qui deviendra plus piétonne et végétalisée, avec un retour du marché sur les allées Fénelon pendant les travaux. Et enfin à Montauban, les travaux démarre enfin à la cathédrale, fermée depuis 6 ans. Une première tranche financée à hauteur de 13,1 millions d'euros par l'État doit permettre une réouverture au public dès l'été 2027. 8h46 sur Présence. Retour de Présence Matin avec Jonathan Botello.
Merci, Enzo Pazil. Allez, pas tout à fait 8h46, mais plutôt 12h04. On vous retrouve à tout à l'heure à 12h30 pour le journal de la rédaction. Dans un instant, direction Bayonne pour l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Je serai en ligne avec la responsable de la communication pour ce diocèse, c'est Nathalie Chambon. Le temps de composer son numéro de téléphone et revient dans 30 secondes.
Radio Présence se mobilise pour la venue du pape Léon XIV. Émission spéciale, reportage, retransmission. Suivez du vendredi 25 au lundi 28 septembre la venue du pape Léon XIV en France sur Radio Présence. Radio Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
On reprend les bonnes habitudes avec cette rentrée et avec les agendas dans les diocèses de notre région. Et aujourd'hui, direction Bayonne, où nous attend Nathalie Chambon. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gilles.
Je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée. Après quelques semaines de vacances, on vous retrouve sur les antennes de Radio Présence. Cet été s'est bien passé?
Oui, très bien, merci. C'est une joie aussi pour moi de vous retrouver, de retrouver nos auditeurs à travers cet agenda.
un agenda qui commence avec la route des orgues, avec un beau concert en musique. On débute cette chronique avec ce concert qui aura lieu ce soir à 20h30 du côté d'Orthès.
Oui, tout à fait. Donc, ce concert avec Pierre Willion, qui est titulaire de l'orgue de la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie et qui interprétera des œuvres qui sont très adaptées à cet orgue Cavalier-Cole qui se trouve dans l'église d'Orthès. Le concert est donc à 20h30 ce soir, où vous pourrez acheter directement vos places sur place. Et sinon, c'est gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans.
Après Orthès, autre concert qui va se dérouler du côté d'Oloron-Sainte-Marie. Concert, orgue et trombone au menu de ce concert ce vendredi.
Oui, deux concerts, hein, ce vendredi 28 août à 20h30, mais également le dimanche 30 août à 17h. Donc dans la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie. Et c'est donc l'abbé Jean-Marie Barène et son neveu Thibaut Ducharme qui seront donc à l'orgue pour l'abbé Barène et au trombone pour Timothée et qui donneront donc ces deux concerts commencer la rentrée en musique et également un petit peu spirituellement dans cette belle cathédrale d'Oloron.
Voilà, cathédrale donc d'Oloron-Sainte-Marie, ces deux concerts à noter. On va aller un peu plus loin et avancer dans le calendrier. Direction le samedi 5 septembre avec au monastère de Sarens un pèlerinage d'Oloron-Sainte-Marie à Sarens, pèlerinage Notre-Dame de la Paix dans le Haut-Béarn.
Oui, tout à fait. Hein. Donc sur ces deux jours, donc le 5 septembre, vous pourrez prendre le départ soit directement à 8h30 à l'église Sainte-Croix d'Oloron, mais vous pouvez également rejoindre en cours de route, puisque vous trouverez sur le site du diocèse les différents lieux où le pèlerinage passera, avec la messe qui sera à l'église Saint-Étienne de l'Urbe à Saint-Christot à 12h15, suivi d'un pique-nique. Vous pourrez rentrer en train, si vous voulez, depuis Sarens le soir. Et puis le dimanche 6, il y aura la messe qui sera célébrée à 11h, suivie d'une auberge espagnole. Hein. Chacun apporte de quoi se restaurer. Ensuite, un chemin de croix et un chapelet pour la paix à partir de 15h. Et les vêpres à 17h donc clôtureront ces deux jours de pèlerinage pour prier pour la paix. Donc, départ le 5 septembre d'Oloron et arrivé à Sarens.
Voilà, niché au cœur de la vallée d'Aspe, hein, c'est vraiment dans le Béarn, ce monastère de Sarens qui se trouve à proximité de la frontière espagnole. C'est vraiment un beau sanctuaire marial à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas.
Tout à fait. Et savez-vous que la Vierge, la statue de la Vierge de Sarens est toujours habillée et revêtue d'un habit aux couleurs liturgiques. Donc n'hésitez pas à venir voir cette belle Vierge qui se pare des couleurs de la liturgie tout au long de l'année.
Voilà, avec le cloître également à découvrir, un lieu de ressourcement et de paix intérieure pour ce monastère de Sarens dans la vallée d'Aspe. La suite de l'agenda nous amène à Pau. Le programme 2026-2027 de l'adoration communautaire de l'église Sainte-Thérèse est d'ores et déjà connu.
Oui, alors c'est bien sûr hein, déjà sur le site du diocèse, diocèse64.org, mais à noter que le premier temps d'adoration communautaire aura donc lieu ce jeudi 17 septembre. Donc c'est à l'église Sainte-Thérèse de Pau. Donc vous pouvez évidemment à partir de 17h venir pour ces temps de 18h pour ce temps à la fois de conférences, d'adoration et de messe qui seront donc tous les jeudis du mois et donc je vous invite à découvrir et à noter dans vos agendas ces temps précieux de ressourcement, d'adoration communautaire à Sainte-Thérèse à Pau.
La paroisse du Christ Sauveur présente le parcours Zaché. C'est deux journées de présentation qui sont proposées.
Oui, tout à fait. Donc, il y a une première journée qui a eu lieu en juin. Mais si vous avez raté celle-ci, donc le jeudi 17 septembre, venez à la maison diocésaine Saint-François-Xavier. Donc, je vous rappelle, elle est 35 rue Montpensier à Pau. De 20h30 à 21h45, vous aurez donc le programme de présentation de ce parcours Zaché qui se déroulera sur cette année 2026-2027. Je vous rappelle, hein, ce parcours, c'est vraiment un parcours qui est créé par la communauté de l'Emmanuel et qui vise à mieux connaître la doctrine sociale de l'Église et qui permet vraiment de pouvoir vivre quotidiennement sa foi tant dans un point de vue personnel que professionnel. Donc vraiment, venez assister à cette présentation le jeudi 17 septembre à 20h30 à la Maison Saint-François-Xavier.
Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron. Diocèse64.org, c'est le site internet du diocèse et qui permet de retrouver cet agenda et plus largement toute l'actualité de votre diocèse. On l'entend, Nathalie Chambon, avec la rentrée, il y a encore des travaux à Bayonne, puisque vos bureaux sont en plein cœur de Bayonne. Hein.
C'est ça, oui, je suis vraiment désolée, mais toute la rue devant le service communication entre l'évêché et le service com est en chantier. Il y a des travaux et de fait, vous participez un petit peu à mon quotidien.
Voilà, ça fait également office de reportage au cœur des travaux donc de la ville de Bayonne avec vous, Nathalie Chambon. Un grand merci. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel agenda et un nouveau point de travaux à Bayonne.
Merci. C'est ça, j'espère que les travaux seront finis. En tout cas, joie de vous retrouver pour vous présenter l'agenda. Merci beaucoup.
Merci et bonne semaine et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison radio. Merci Nathalie.
Au revoir.
Présence aux portes du Tarn. 97.9.
Et après le diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron, direction le diocèse de Tarbes-Lourdes, avec vous Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Corentin Laguens.
Bonjour Anne-Rose.
Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio Présence. Corentin, vous allez être ordonné diacre pour le diocèse de Tarbes-Lourdes dans quelques jours, le dimanche 6 septembre, à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Une ordination diaconale en vue du sacerdoce, ça veut dire que dans quelques mois, vous serez prêtre pour le diocèse de Tarbes-Lourdes. Corentin, vous avez 30 ans, beaucoup dans le diocèse de Tarbes-Lourdes vous connaissent, et puis d'autres vous connaissent un petit peu moins peut-être. Alors on va essayer de faire connaissance et puis de voir un petit peu comment est née votre vocation, pourquoi vous avez envie d'être prêtre ici dans notre église locale. D'abord, parlons de cette ordination, une ordination diaconale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous en êtes rendu où dans votre parcours et dans votre discernement ?
Alors, ça veut dire que j'ai fini mon séminaire. En fait, on dit les séminaristes, on a l'habitude de dire que c'est la fin, mais en fait, c'est le début. Parce que on finit effectivement les années de séminaire. Donc là, ça fait à peu près 6 ans de formation. Et donc, ça fait un nombre assez conséquent d'années. Et donc c'est pour ça qu'on dit c'est bon, j'ai fini mon séminaire. En fait, c'est le début de la mission et c'est le début de voilà, pour le diaconat, du service. Et puis après, une fois qu'on est prêtre, il faut servir l'église, donc c'est un peu le début de tout. Je suis rentré au séminaire il y a déjà 6 ans, comme je le disais, et d'abord on commence par une année de propédeutique, donc c'est une toute première année pour savoir si on veut vraiment rentrer au séminaire. Et puis ensuite on fait 2 ans de philosophie et après on passe en théologie. Donc moi j'ai fait ma philosophie et ma première année de théologie à Toulouse, au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. Et après je suis parti à Rome faire mes 2 dernières années de théologie que je viens de terminer en juin.
Et pourquoi Rome et pourquoi le séminaire français à Rome ?
Parce que c'est un séminaire comme on en trouve en France. Il y a rien d'exceptionnel. La formation est la même. De toute façon, elle est organisée et généralisée. Donc, effectivement, il y a des changements sur la pratique, sur le concret, mais grosso modo, c'est la même formation partout. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais il faut avouer que Rome, c'est quand même un cadre particulier. Je pense qu'il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est l'universalité de l'Église. Donc, on se rend compte, en particulier dans les facultés romaines, de la diversité de cette Église. Moi, je suis en cours avec des Sud-Américains, des Nord-Américains, des Asiatiques, avec d'autres pays d'Europe, etc.
Vous sentiez le besoin de ça, de découvrir
Je sentais le besoin de sortir un petit peu de la vision franco-française de l'Église. En fait, elle n'est pas mauvaise en soi, mais on y est forcément un petit peu bloqué dedans, puisque c'est la réalité qu'on connaît, et c'est très difficile de sortir de cette réalité, parce qu'au quotidien, on vit dedans.
Et ce que vous allez faire après dans votre vie de prêtre, c'est dans une réalité
exactement
franco-française,
Exactement. Et donc, c'est aussi important de la connaître, celle-ci. Mais l'Église, c'est pas que ça. Et l'Église, elle a une dimension qui est universelle, comme je le disais. Et donc, on ne mesure pas à quel point l'Église en Afrique, l'Église en Amérique est un visage en fait différent et qui nous dit quelque chose de, je pense, très important de l'Église avec un grand E.
De partir à Rome, ça a fait mûrir votre vocation quelque part. Ça vous a aidé?
Ça
vous a posé des questions?
Non, ça a complété en fait. Moi, c'est ce que je cherchais. Je cherchais à compléter justement cet élément de la formation. Donc il y en a qui partent en stage des fois dans des pays en développement, etc. et qui se mettent au service de réalités qui sont vraiment différentes de ce qu'on connaît dans notre quotidien. Et moi, je cherchais à connaître ça par justement en changeant de pays par le séminaire. Je peux dire que c'est réussi parce que justement à la faculté, voilà, il y a beaucoup de réalités différentes et on voit bien les façons de penser différentes, les cultures différentes qui viennent en fait pas du tout s'opposer, mais justement se compléter, et ça nous permet aussi de relativiser un petit peu nos réalités propres. Le deuxième élément, moi, que j'ai trouvé important, c'est la proximité avec le Saint-Siège et le Saint-Père. En fait, c'est un peu le cœur de l'Église, en fait, le cœur à la fois de l'Église institutionnelle, mais c'est aussi le cœur de l'Église historique avec, on sait bien, Saint-Pierre et Saint-Paul. Et donc, moi, j'avais envie aussi de me rapprocher de ça pour voir comment on pouvait gérer quelque chose d'aussi délicat, d'aussi j'allais dire difficile que l'Église à partir d'un centre qui est nécessairement géographique, et là on a la chance de pouvoir un petit peu voir les différents dicastères, de connaître des gens qui travaillent aussi au Saint-Siège. On a aussi la chance de servir parfois la messe du pape, mais donc ça nous fait connaître des réalités
avec une vue très large sur ce qu'est l'Église.
Exactement. Et puis avec justement cette dimension parfois qui peut nous paraître pesante, mais plus administrative ou hiérarchique. Ouais. Et en fait, ça permet aussi de comprendre pourquoi elle a été structurée comme ça, parce qu'il y a aussi, il y en a aussi besoin en fait. Sinon, ça partirait un peu à droite à gauche. Mais c'est aussi une vraie richesse de Rome.
Quand vous êtes en formation à Rome, vous avez néanmoins une paroisse d'insertion, de rattachement ici dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, dans lequel vous vivrez votre vie de prêtre.
Alors tout à fait. Quand je suis à Rome, j'ai à la fois une paroisse à Rome, parce que ça me permet d'y aller le week-end. Mais quand je reviens dans le diocèse, je suis rattaché à la paroisse de Lourdes, du pays de Lourdes, donc maintenant une grande paroisse. Mais je reviens effectivement à Lourdes dans le diocèse, et je me rends compte, donc j'y suis assez peu finalement, puisque je passe quasiment toute mon année à Rome. Je reviens pour Noël, Pâques et l'été. Quand j'y suis pas, je me rends compte, en fait, c'est quand même difficile. C'est aussi peut-être un désavantage d'être aussi loin, c'est que on voit passer la vie diocésaine et c'est difficile de s'impliquer dedans, c'est difficile de se sentir parfois un petit peu éloigné. C'est comme ça et c'est temporaire, heureusement. Mais voilà, donc revenir dans une paroisse concrète, ça fait beaucoup de bien. Oui.
Qu'est-ce que vous aimez dans notre église diocésaine? Pourquoi vous avez envie d'être prêtre ici, en Bigorre?
Alors déjà parce que c'est mon pays, c'est ici que j'ai grandi.
Vous êtes né à Tarbes?
Moi, je suis né à Lourdes et j'ai grandi à Tarbes et j'ai fait toute ma scolarité à Tarbes. Après, je suis un petit peu parti à Toulouse pour les études, mais je suis revenu travailler à Tarbes dès que j'avais fini les études. Donc, je suis vraiment...
Dans le paysage diocésain, on vous a vu très jeune,
oui.
Impliqué auprès des jeunes, auprès du... Voilà,
oui, ça fait longtemps.
Aux aumôneries de jeunes, etc.
Exactement. Ça fait un petit peu... Voilà, ça fait longtemps que je connais les réalités de notre diocèse et en ayant grandi dedans, je les ai connues de l'intérieur, j'ai vu beaucoup de choses changer. Donc c'était... Il s'est jamais posé la question d'aller ailleurs. Déjà, ça c'est certain. C'est
vraiment là qu'est née votre vocation. C'est ici, en vivant en tant que chrétien, dans ces terres bigordanes, que votre vocation pour être prêtre est née.
Oui, bien sûr. C'est en connaissant les prêtres qui m'ont fait grandir, les prêtres qui m'ont fait le catéchisme quand j'étais petit, les prêtres que j'ai vus à la messe quand on y allait en famille. C'est cette réalité-là. Et même, c'est peut-être même plus trivial, mais c'est les réalités concrète, en fait, c'est les paysages que moi je suis pas ici, les Pyrénées me manquent, quoi. Donc,
Rome c'est joli, mais les Pyrénées.
C'est les Pyrénées, c'est mieux. J'ose le dire, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est quand j'étais petit, j'allais au sanctuaire très régulièrement, en famille, etc. etc. Donc, c'est évident que c'est une réalité qui importe et il n'y en a pas d'autre, quoi. C'est évidemment ce diocèse.
Ça veut dire que vous suivez quand même de près, même en étant à Rome, l'actualité et la vie diocésaine, y compris le changement qu'on connaît depuis un an de la réorganisation de nos paroisses, avec la publication aussi des orientations pastorales de Mgr Mika, notre évêque. Quand vous voyez tout ça, quand vous lisez les orientations pastorales de notre évêque, qu'est-ce que vous vous dites ? Ça vous fait envie ?
C'est assez marrant comme question, parce que je me souviens de Mgr Mika qui avait, je pense que c'était lors d'une homélie, mais qui avait dit au peuple fidèle devant lui que il avait discuté avec des séminaristes des nouvelles orientations, qui s'était dit assez intéressé et en tout cas il trouvait ça motivant pour la suite. Ben j'avoue que je lui en avais parlé un petit peu et je lui avais exprimé ce retour là. Donc évidemment je suis quand même les actualités diocésaines. Heureusement aujourd'hui c'est assez facile avec internet. Et ben oui, je vois tous ces changements. Je les suis attentivement et je me réjouis de tout ça, et je vois qu'en fait l'image qu'on pourrait coller à l'Église de c'est une vieille institution qui n'arrive pas à bouger, et un peu la personne âgée qui se déplace difficilement, on a un peu cette image là. Ben en fait non seulement c'est pas une image dégradante, cette image-là, parce qu'effectivement l'Église est une vieille dame, et c'est beau parce qu'elle a l'expérience des années, mais en fait elle est pas du tout que ça. Et on le voit là, en particulier, je pense à un événement qui approche bientôt, c'est la venue du pape. Mais elle bouillonne, l'Église, et elle a hâte de faire bien les choses. De tout le monde est motivé par cette venue. Et donc je le vois aussi dans le diocèse. Voilà toutes ces réformes qui sont pas juste à visée administrative ou organisationnelle, parce que souvent réforme ça fait un peu penser à ça, on pense aux réformes du gouvernement,
quelque chose comme ça,
voilà, et puis chacun veut mettre sa patte, etc., etc. Moi je pense pas que ce soit la même réalité dans l'Église diocésaine ou dans l'Église tout court, mais en fait c'est un pasteur qui se met à l'écoute, et je parle de l'évêque, qui se met à l'écoute des réalités diocésaines et qui essaie de trouver le mieux pour ces réalités-là. Donc moi ça m'intéresse beaucoup, et je préfère ça à une sorte d'immobilisme ou même une pudeur excessive à dire on ne touche à rien, dans la peur de mal faire ou de faire différemment. Voilà, je préfère ces changements-là, oui.
Alors servir l'Église dans un diocèse, ça veut dire aussi être impliqué dans des territoires qui sont parfois très différents. Là, on parle de Tarbes, de Lourdes, des jeunes. Là, ce sont des réalités effectivement visiblement, manifestement dynamiques. Il y a peut-être des territoires un peu plus reculés où là, il faudra mettre une énergie différente pour encourager les communautés paroissiales qui sont peut-être plus pauvres, qui ont vraiment la foi, mais qui sont moins nombreuses. Quelle qualité, quelles compétences vous avez envie de donner à ces réalités-là ?
Alors, ce qui est certain, c'est que je partage tout à fait votre constat. C'est un peu facile ou c'est un peu évident de se concentrer sur les gros, les grosses réalités ou les gros pôles de mission. On voit Tarbes et Lourdes, c'est facile, c'est les plus grosses villes du diocèse. On parle souvent des jeunes aussi. Moi, je sais que j'aime beaucoup la pastorale des jeunes, donc c'est naturel pour moi de m'impliquer là-dedans. Mais en fait, si je deviens prêtre, puisque c'est pas encore fait, je serai pas prêtre pour les jeunes uniquement, je serai prêtre pour tous les habitants du diocèse, et ça c'est un vrai défi. Donc moi j'ai encore à apprendre, c'est pour ça que tout ne s'arrête pas une fois qu'on est ordonné. Moi je veux davantage connaître les réalités, et j'en connais quand même quelques-unes, voilà, vu que je suis d'ici, mais effectivement il y a une telle variété de réalités dans le diocèse. Si on parle des réalités géographiques, c'est clair que les différentes vallées avec le nord du diocèse, c'est très différent. Si on parle des jeunes avec les personnes âgées, c'est très différent. Il y a mille choses à faire dans l'Église, et ces mille choses nous attendent finalement. Mais il faut pas non plus le danger, ce serait de se dire je suis le Messie, je vais sauver tout le monde. En fait, on va peut-être un peu se calmer, on va donner ce qu'on reçoit de la prière et du Christ là où on nous appellera, et on va faire petit à petit. Donc il y a Ouais, faut être un peu raisonnable aussi, sans se, je suis pas du genre à me réfréner. Je suis plutôt assez vif et j'ai besoin qu'on d'y aller et d'agir. Mais il faut pas non plus partir partout et faire des choses tout seul. On n'est pas là pour.
Vous comptez sur les communautés chrétiennes aussi.
Je compte évidemment. En fait, moi, ce qui me touche beaucoup, mais je pense que j'aurai l'occasion de le dire à d'autres moments, c'est les. En fait, ce sont ces réalités qui font pas de bruit. Je pense qu'on a vite fait de les oublier. Ce sont les gens qui, il y a pas longtemps, j'étais dans une maison de retraite. Ce sont ces gens-là qui sont plutôt seuls, mais qui passent leur temps à prier, en fait, pour le diocèse. Ils me disent qu'ils prient pour moi quand je les croise. Et ça, c'est une réalité.
C'est vrai que dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, on prie beaucoup pour nos séminaires.
Mais c'est très, très important. Il faut continuer. Mais ça, c'est une réalité qui me touche profondément. C'est la sainteté humble du quotidien. Et moi, je suis émerveillé. C'est vraiment quelque chose qui me touche d'être témoin de ces vies saintes, quotidiennes. Qui font pas du tout de bruit, cette petite sainteté, c'est un peu un moteur pour moi.
Vous allez être ordonné diacre le dimanche 6 septembre à Tarbes, Corentin Laguens. Vous l'avez dit, après, le chemin n'est pas terminé. Être diacre, c'est pas encore être prêtre. Qu'est-ce qui va se passer durant les quelques mois? Vous êtes encore en discernement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un diacre qui se prépare à être ordonné prêtre?
Alors, effectivement, ici, il y a une petite particularité entre diacre permanent et diacre en vue du presbytérat. Le diacre permanent s'arrêterait, entre guillemets, à cette étape. Bon, encore une fois, c'est pas un arrêt, c'est le début. Pour ma part, normalement, en tout cas, d'après ce que prévoit le droit canonique, il y aura l'ordination sacerdotale plutôt, faut envisager, fin d'année prochaine, donc dans à peu près un an. D'ici là, l'évêque m'enverra en mission. Je suis pas sûr de pouvoir trop en parler, mais c'est l'évêque qui annoncera.
En tous les cas, vous devriez avoir une mission locale.
Alors c'est ce qui est sûr, c'est que je suis envoyé en mission puisque encore une fois, le droit canonique le prévoit.
Ça c'est prévu.
Oui, bien sûr.
Voilà. Corentin Laguens, qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être aux auditeurs de Radio Présence? Alors, on a parlé de la prière et on entend que c'est très important de savoir que des gens prient pour vous, et même si vous ne le savez pas, la prière, elle porte certainement ses fruits. Au-delà de la prière, les diocèses, les fidèles du diocèse sont invités à votre ordination diaconale le dimanche 6 septembre, mais qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
J'aimerais leur dire d'aimer l'Église. C'est pas forcément facile, et c'est peut-être facile de le dire et pas facile de le faire, mais à la fois l'Église locale, l'Église diocésaine avec aussi ses imperfections, mais l'Église universelle, d'arriver à dépasser la vision peut-être humaine de l'Église et institutionnelle, comme on le disait tout à l'heure, d'aimer l'Église qui est sainte, l'Église qui, en fait, elle veut la sainteté pour nous, et c'est dans l'Église qu'on sera saint. Et donc, de sans cesse chercher à connaître davantage l'Église pour l'aimer davantage.
Merci beaucoup, Corentin.
Merci à vous.
À bientôt sur Radio Présence et bon préparatif. Vous partez en retraite, on peut le dire. Vous partez pour plusieurs jours de retraite à Encalcate avant votre ordination diaconale. Donc soyez assurés de nos prières.
Merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, et Corentin Laguens était interrogé par Anne-Rose Jankovic, qui sera donc ordonnée diacre le 6 septembre prochain dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, à Tarbes précisément. Dans un instant, on va continuer à parler de cette journée du 6 septembre, puisqu'il y a un autre événement dans ce diocèse. C'est une grande journée pour les enfants et les jeunes. C'est Thibault Lebon qui sera au micro d'Anne-Rose Jankovic. C'est le coordinateur du pôle annonce de la foi dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. C'est juste après le journal régional, un journal présenté par Enzo Basile. Bonjour Enzo.
Bonjour à tous. Important incendie agricole mercredi après-midi à Aurillac-sur-Vindielle, une trentaine de kilomètres du sud-est de Toulouse. Le sinistre s'est déclaré peu après 13h sur l'exploitation d'Alain Molinier, agriculteur de quatrième génération. Alors qu'une moissonneuse-batteuse rentrait au hangar, moteur encore en marche, un court-circuit serait à l'origine des flammes qui se sont rapidement propagées, transformant le hangar de stockage en brasier. Tracteurs, céréales, colza et engrais entreposés à l'intérieur ont été détruits, mais ni la maison voisine ni les occupants n'ont été touchée. Poussée par un vent fort d'autant avec des rafales jusqu'à 80 km/h, l'épaisse fumée noire était visible à plusieurs kilomètres. Dans l'Ariège, d'importants travaux débutent le 31 août sur la RD 46 à Boussenac. Suite à des intempéries de février 2026, un glissement de terrain était apparu au niveau du PR0 plus 775, fragilisant le talus de Ramblay et menaçant l'intégrité de la chaussée. Le département a donc engagé une opération de confortement pour sécuriser durablement cet axe. Les travaux consistent à réaliser un ouvrage de soutènement en rochement en haut d'environ 4 mètres et au long de 25 mètres afin de soutenir la chaussée et stabiliser les talus. L'opération confiée à l'entreprise Batignolles-Mallet représente un coût de 70 000 euros. Le chantier doit durer 2 semaines avec une fin programmée au 11 septembre. Plus de 6 mois après les faits, les agriculteurs de l'Aveyron vont pouvoir être indemnisés pour les dégâts causés par les pluies excessives de début d'année. Dans un communiqué publié le 24 août, la préfecture annonce que le Comité national de gestion des risques en agriculture a reconnu le 8 juillet dernier le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs du département à la suite des pluies excessives du 7 janvier au 9 février 2026. Sont concernés les exploitants ayant subi des pertes de fonds sur leur sol, ouvrage, ruche ou cheptel vif. Les agriculteurs concernés ont jusqu'au 5 octobre pour déposer leur formulaire de demande d'indemnisation disponible sur le site de la préfecture de l'Aveyron. Alerte moustique-tigre à Mirande dans le Gers. Dans la nuit du 25 au 26 août, une opération de démoustiquisation a été menée entre 23h et 6h du matin dans les secteurs de la rue Pierre-Lamaguerre et des rues Berdou. En cause, une personne suspectée d'être atteinte de la dengue, chikungunya ou du Zika. Des maladies transmises par le moustique-tigre auraient fréquenté la commune. Opération pilotée par l'Agence régionale de santé, l'ARS, consistait à pulvériser un insecticide depuis un véhicule circulant sur la voie publique. Les habitants sont invités à prendre certaines précautions, garder les enfants et les animaux à l'intérieur, rentrer les aliments à l'usage et attendre 3 jours avant de consommer fruits et légumes du potager après les avoir lavés. Dans le Lot, à Cahors, un vaste chantier de 10 mois démarre. Les travaux du réaménagement de la place Chapou débutent lundi 7 septembre 2026. La place sera fermée au stationnement des mercredis 2 septembre après le marché pour permettre justement cette installation des équipes. Le chantier débutera par la réfection complète des réseaux souterrains avant une livraison espérée à l'été 2027. Un projet prévoit une place largement piétonnisée, davantage végétalisée avec un doublement du nombre d'arbres et un nouveau jardin paysager autour de la cathédrale, ainsi que le retour d'une fontaine historique et de l'installation de bancs fontaines. Pendant toute la durée des travaux, les marchés du mercredi et du samedi s'installeront sur les allées Fénelon, tandis que l'accès au commerce et aux habitations de la place sera maintenu. La ville a également créé une commission d'indemnisation amiable pour soutenir les commerçants impactés par le chantier. Et puis enfin, après 6 ans d'attente, les travaux démarrent enfin. La cathédrale Montauban, fermée au public depuis le 25 novembre 2020 pour des raisons de sécurité, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption est actuellement la seule cathédrale de France fermée. Une cinquantaine de bénévoles ont participé au déménagement du mobilier pour libérer l'intérieur de l'édifice avant les travaux qui doivent démarrer concrètement à la rentrée. Cette première tranche prévue jusqu'à l'été 2027 vise à stabiliser le bâtiment. Reprise des sols, renforcement des fondations par micro-pieux, pose de tirant et reprise des maçonneries. L'État propriétaire de l'édifice mobilise 13,1 millions d'euros pour cette opération sous la maîtrise de l'ouvrage de l'OPIC. Une seconde tranche de travaux consacrée à la restauration intérieure, décor, pain, chapelle, mobilier s'étendra ensuite jusqu'à l'été 2028. Mais la priorité reste la même depuis plusieurs années, permettre au public de retrouver la cathédrale dès l'été 2027.
Merci Enzo Basile. Retour de l'info à 13h avec toute l'actualité nationale et internationale et la réaction française de Radio Vatican. Dans les prochaines minutes, on va prendre un peu d'altitude, direction les Pyrénées avec le regard des écrivains sur les Pyrénées et Anne Lasserre. Mais pour le moment, la suite de cette émission, c'est avec Androse Jankovic et son invité dans le diocèse de Tarbes et Lourdes.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Bonjour Thibault Leblond.
Bonjour Adrose.
Vous êtes coordinateur du pôle annonce de la foi dans le diocèse de Tarbes et Lourdes et aujourd'hui vous allez nous parler d'une journée diocésaine qui est organisée par et pour les jeunes de 7 à 35 ans dans le diocèse. Ça se passera à la Maison Saint-Paul, à la Maison diocésaine le dimanche 6 septembre prochain. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que les jeunes vont vivre durant cette journée puisque c'est vous qui coordonnez cet événement. D'abord, Pourquoi vous organisez une telle journée? Pourquoi les jeunes ont besoin de leur journée diocésaine, Thibault Leblanc?
Eh bien, pourquoi une journée diocésaine? Effectivement, on a la chance d'être dans un diocèse où les jeunes, plus ou moins jeunes, ont énormément de propositions par les paroisses, par le service diocésain des jeunes, etc. Et on en a, l'idée n'était pas de rajouter quelque chose, mais plutôt d'une volonté de l'évêque de se réjouir, tout le diocèse, et les jeunes compris, de cette ordination diaconale qui aura lieu le 6 septembre.
Oui, effectivement, puisque ce jour-là même, il y aura à 16h en la cathédrale Notre-Dame de la Cède, l'ordination diaconale de Corentin Laguinse.
Exactement, voilà. Et c'est justement une source de joie. Une source de joie pour l'ensemble des fidèles, pour l'ensemble de la Bigorre et des Quatre-Vallées, et pour l'évêque qui avait un souci de pouvoir offrir aux jeunes un espace, un temps, dans lequel on puisse se rassembler pour fêter ça. Mais aussi se rassembler parce que c'est un jeune qui est ordonné, et de dire que la jeunesse, elle est au cœur de la vie de l'Église. Alors, on le dit comme ça, c'est des mots qui sont très beaux, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a voulu justement mettre ça en pratique et construire une journée dans laquelle les jeunes puissent prendre leur place dans l'Église et prendre la parole dans leur Église.
Donc, le but, c'est aussi de dire à tous les fidèles du diocèse qui sont peut-être parfois un petit peu éloignés des aumôneries de jeunes, qui peut-être s'imaginent qu'il n'y a plus de jeunes dans notre Église, le but, c'est de leur envoyer le message, bah, si, les jeunes sont là et puis ils sont dynamiques.
Exactement, ils sont dynamiques et pour le coup, moi qui me balade souvent dans les différentes aumôneries ou dans les établissements catholiques ou au catéchisme, eh bien, les jeunes sont là, ils sont dynamiques et ils ont envie de dire quelque chose. Ils ont envie de dire quelque chose à notre évêque, d'abord. Ils ont des envies, ils ont un désir de s'engager, ils ont envie de faire vivre et de leur paroisse, mais plus largement tout le diocèse. Et puis surtout, ils ont envie de le faire entendre.
Alors, je me fais un petit peu l'avocat du diable, Thibault Leblanc, mais peut-être que parmi nos auditeurs, il y en a certains qui vivent dans des vallées un peu plus éloignées de Tarbes ou de Lourdes et qui se disent bah, c'est bien joli tout ça, il y en a peut-être des bons groupes de jeunes, avec plein de jeunes très dynamiques en centre-ville de Tarbes, dans les aumôneries tarbaises, mais au fin fond de nos vallées, c'est pas si évident, les aumôneries, quand elles ont 3 ou 4 jeunes, on est déjà content et c'est pas facile. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces gens-là? Parce que c'est bien beau de le dire, mais comment on arrive à le dire et à le vivre?
Et effectivement, on a des grandes disparités, et
oui,
ça c'est certain.
Ça.
Mais quand je fais le chemin entre Tarbes et Lannemezan, entre Lannemezan et Argelès, et Vic-en-Bigorre, etc., c'est pas tant la question du nombre dans les aumôneries qui va changer quelque chose. J'ai envie de même vous dire, finalement, on a peut-être un soin plus important auprès de ces jeunes quand ils sont peu nombreux.
Oui.
Ils ont finalement peut-être une place plus visible dans nos communautés quand ils sont peu nombreux, parce que on sait qu'on doit... ce qui est rare, finalement, est précieux. Et peut-être qu'on en prend beaucoup plus soin.
Vous trouvez que dans le diocèse, on prend soin de nos jeunes?
Moi, je pense qu'on prend très soin de nos jeunes. Pour avoir pu travailler dans d'autres diocèses, je peux vous dire qu'on en prend soin et qu'on y met une énergie certaine. Et une certaine énergie aussi à pouvoir tous s'y impliquer, que ce soit les prêtres, mais que ce soit aussi les laïcs, dans ce souci, en tout cas, non pas seulement de les rendre visibles, parce que ce serait une belle vitrine pour nos communautés chrétiennes, mais c'est parce qu'on a ce souci de les faire grandir dans la foi, de les faire grandir dans l'engagement, dans leur communauté. Et c'est justement ça qu'a voulu, en premier, manifester notre évêque, c'est que depuis l'année dernière et la lettre pastorale qu'il nous a proposée, le cœur du projet pastoral pour le diocèse de notre évêque, c'est que, à nouveau, nous développions la communion, que nous redécouvrions ce que veut dire véritablement la communion diocésaine, la communion dans une paroisse. Et bien, la communion, c'est comme tout, ça peut s'apprendre dès le plus jeune âge.
Ça veut dire qu'il n'y a pas un projet pastoral spécifique pour les jeunes dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, mais que les jeunes sont inclus naturellement, évidemment, dans le projet pastoral du diocèse.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette journée-là. C'est une journée pour apprendre la communion. Et la communion, déjà, effectivement, au niveau de sa paroisse, avec les autres jeunes, mais aussi avec les autres fidèles, et aussi au niveau diocésain. Et justement, pour ces jeunes qui sont dans des aumôneries ou dans des établissements ou au catéchisme, qui sont peut-être plus loin que Tarbes et Lourdes, eh ben, ces occasions de se retrouver au niveau diocésain, c'est pouvoir croiser d'autres jeunes, croiser d'autres types de populations, croiser d'autres types d'expériences de vie spirituelle, et pour pouvoir signifier justement que c'est dès cet âge-là que l'on va expérimenter, que l'on va apprendre et qu'on va manifester cette communion diocésaine.
Alors, cette journée, elle est faite pour les jeunes, même les enfants de 7 à 35 ans.
Tout à fait.
Donc, c'est quand même des tranches d'âge assez larges, un panel assez large. Comment vous allez faire, justement, de manière très concrète, comment vous allez parler de la communion et faire vivre une journée de foi, de joie, de prière à tous ces enfants et ces jeunes de 7 à 35 ans? Ça paraît un petit peu dingue comme pari.
C'est dingue, mais c'est un pari fou, mais qui est pour les jeunes et qui est fait par des jeunes. C'est pour ça que le pari est fou. Ils ont cette folie-là d'oser organiser ce type de choses. De 7 à 35 ans, pourquoi ? Parce que globalement, on a des aumôneries qui, effectivement, le caté, les aumôneries des collégiens, des lycéens. Et puis, en fait, on a aussi, aujourd'hui, une vraie pastorale diocésaine sur les jeunes adultes, étudiants et jeunes professionnels. Oui. Donc,
ceux qui sont allés au Mont-Saint-Michel et à Lisieux cet été.
Les 60 qui sont partis, effectivement, en Normandie cet été, et qui ont vécu, là aussi, une belle occasion de communion et de mission aussi, tous ensemble. Pourquoi ce gap-là ? Parce que aujourd'hui, on considère que les jeunes professionnels, c'est de 18 à 35 ans, comme pour les JMJ, etc. Et on a osé faire ce pari, mais avec le grand défi qui est effectivement de dire qu'on ne peut pas faire prendre la parole ou tisser du lien avec un enfant de 8 ans comme avec un jeune de 20 ans. Eh bien, pour nous, l'important, c'était de pouvoir avoir, de les rassembler et en même temps d'avoir des propositions distinctes. Typiquement, l'après-midi de cette journée, il y aura un certain nombre d'ateliers, une dizaine d'ateliers qui seront proposés et qui auront des modalités différentes. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, ça sera plutôt des médiations de type d'expression artistique. Je ne peux pas demander à un enfant de 8 ans ce qu'il pense de la pastorale des jeunes et sa prospective dans les 5 ans à venir.
Est-ce qu'il a bien étudié la lettre pastorale de Mgr Vicat?
Et s'il a bien appris par cœur la lettre pastorale de Mgr Vicat? Évidemment que non. En revanche, par le dessin, par la musique. On a notamment un atelier où on a deux étudiants et jeunes pros qui vont proposer d'écrire une chanson ensemble avec des enfants sur ce qu'ils ont envie de chanter à notre église, qu'ils ont envie de chanter aux fidèles d'ici, ce qu'ils ont envie de chanter aussi à notre évêque peut-être, et peut-être au pape qui viendra dans quelques semaines. C'est de trouver des médiations, des types d'activités, ou une grande frise qui sera de 10-15 mètres de long, on leur dire dessine ton église de demain, celle que tu as envie de bâtir avec l'ensemble des autres fidèles, mais pour les plus âgés, les 18, 20, 30 ans, de pouvoir avoir peut-être des temps plus simples, de partage, d'échange, mais qui sont aussi dans une logique, et là je veux être assez concret là-dessus, l'idée n'est pas de leur demander à l'ensemble de ces jeunes-là ce qu'il faut changer, ce qu'ils n'aiment pas, qu'il faut réduire le temps de la messe parce que c'est trop long ou qu'il faut que le curé soit plus sympa. C'est pas ça l'enjeu.
Pour nous, c'est quoi l'enjeu ?
L'enjeu, c'est véritablement de leur permettre de s'exprimer sur d'abord leur vie spirituelle. Et que déjà,
et au fond, c'est quelque chose de très intime.
Et c'est quelque chose de très intime. Et c'est justement là où la communion, peut-être, elle vient nous toucher dans quelque chose où nous sommes appelés à tisser des véritables liens entre nous. Et donc, il faut que cette vie spirituelle individuelle que je peux vivre, il faut qu'ils découvrent que d'autres en ont déjà, et surtout qu'en fait, ils la vivent ensemble. La communauté, qu'elle soit mon clocher, ma paroisse ou le diocèse, c'est quelque chose qui est tangible, c'est quelque chose qui est concret, c'est-à-dire d'abord un maillage de liens. Et ça s'apprend là aussi dès le plus jeune âge. De pouvoir dire d'abord ce que l'on veut vivre de notre communauté. Est-ce que ma communauté, elle a un peu la couleur, un peu la patte de ce que moi je vis comme vie spirituelle?
Alors quand je vous entends, Thibault Leblond, alors je comprends que vous avez donc confié aux jeunes, à des jeunes du diocèse, l'organisation de cette journée. Donc
c'est eux
qui pilotent la logistique, c'est eux qui vont piloter aussi les ateliers, qui les imaginent, qui les inventent, qui vont les porter pendant toute cette journée du 6 septembre. Ça veut dire que vous leur faites quand même sacrément confiance?
Oui. Et justement, c'est des mots qui peuvent être très beaux, mais il faut assumer ce qu'on dit. Et donc, cette journée, elle est pour les jeunes et par les jeunes. Donc, on a aujourd'hui 15-20 lycéens, étudiants, jeunes pros qui se sont mobilisés pour organiser entièrement cette journée-là, du pilotage global à la logistique, au temps de repas, l'animation du temps de prière, la musique, etc. Et c'est eux qui, même, j'ai envie de dire, moi je suis là pour les accompagner, mais à mettre en musique cet ensemble-là, mais c'est eux qui décident et c'est eux qui donnent le tempo.
Est-ce qu'il vous bouscule un peu par rapport à la perspective initiale que vous aviez de cette journée ? Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent là, que vous n'aviez pas imaginées ? Et est-ce que vous vous laissez volontiers bousculer par ces jeunes ?
Ah ben, j'avais pas imaginé qu'il serait 15 musiciens, par exemple, et chanteurs pour animer ce temps de prière le matin, qui pour moi pouvait être quelque chose de très simple. On s'accueille, on se retrouve pour prier et démarrer cette journée. Et ben non, ils ont décidé d'en faire un vrai festival de prière, pour le coup, adapté, mais en même temps avec ce talent de savoir l'adapter à tous les âges. Et ben je dis, ben en fait ils ont raison. C'est moi qui me trompe. En fait non, la prière, elle devrait être centrale dans cette journée-là. Et ben en fait ils l'ont démontré, ils le mettent en œuvre. Et ben je pense que là aussi ils viennent nous bousculer sur des choses en fait qui sont essentielles et que parfois on oublie un peu.
Alors vous avez bien dit, c'est pour les jeunes de 7 à 35 ans. Évidemment l'objectif est d'envoyer un signal d'espérance à tout le diocèse. Oui, il y a des jeunes, oui, ils sont mobilisés, ils savent faire de très belles choses, ils ont des choses à vivre et avec nous et à nous dire. Cela dit, tous les autres fidèles du diocèse, au-delà de 35 ans, c'est pas qu'on est vieux, mais on est quand même trop vieux pour participer à cette journée.
Ah, par contre, c'est interdit aux plus de 35 ans. Ça, c'est certain. Il faut, non pas qu'on veuille...
Comment on pourra avoir écho? On pourra faire le lien ensuite?
L'idée n'est pas de séparer les gens, c'est que simplement, c'est des tranches d'âge qui ont besoin de leur espace à un moment donné pour, j'ai envie de dire, entre guillemets, sécurisant, pour pouvoir véritablement prendre la parole et s'investir. Mais... ce qui est certain, c'est que d'une part, effectivement, c'est via l'ensemble des aumôneries, des groupes de catéchisme, etc., que la communication est passée. Et c'est notamment cette journée sera coportée avec ces acteurs de terrain. Et ça, c'est important de pouvoir le dire. Ils seront investis, des adjoints pastoraux scolaires, des responsables d'aumôneries de collégiens, etc. Mais surtout, ce sur quoi je compte, c'est que ces jeunes qui vont participer à cette journée, c'est eux qui viennent témoigner dans leur paroisse et c'est la mission qu'on leur donnera.
C'est l'invitation. Que le lien va se faire,
ça sera à eux d'aller dans leur communauté et j'ai envie de dire comme Bernadette, d'aller secouer un peu l'abbé Péramal et lui dire j'ai quelque chose à vous dire. Et ben c'est la mission qu'on va leur donner à ces jeunes, ça sera à eux de venir vous partager ce qu'ils ont vécu.
Ce sera donc le dimanche 6 septembre à partir de 10h le matin à la maison diocésaine, la maison Saint-Paul au 51 rue de Trénès à Tarbes. Ça dure jusqu'à 15h puisqu'après évidemment tout le monde se retrouvera à la cathédrale Notre-Dame de la Cède pour l'ordination diaconale de notre séminariste Corentin Laguins. Côté pratique, et on termine là-dessus, est-ce qu'il faut que ces enfants, ces jeunes s'inscrivent? Est-ce qu'ils doivent venir avec leur pique-nique? Ça, c'est le petit côté pratique, mais il y a des mamans qui nous écoutent.
Pour les mamans et les papas qui nous écoutent, l'important, c'est effectivement d'avoir son petit pique-nique, mais l'entrée et le dessert sera prévu, les boissons aussi. Et pour venir, il est mieux que vous puissiez passer par votre aumônerie de la paroisse, par le responsable du caté ou pas, ou le curé. Ça sera toujours ouvert à tous. Mais l'idée, c'est que vous veniez aussi avec votre communauté. Et donc, c'est aussi votre aumônerie, c'est aussi votre groupe de catéchisme, etc. Donc, passons aussi d'abord par la paroisse pour pouvoir participer à cette journée. Sera plus simple à gérer pour tout le monde.
Effectivement.
Mais ça sera surtout un signe que le diocèse, c'est d'abord des paroisses qui se rassemblent.
Voilà, effectivement, le message est bien passé. Merci beaucoup Thibault Leblond, vous qui êtes coordinateur du pôle annonce de la foi dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. On vous souhaite une très bonne année pastorale dans notre
diocèse.
Merci
Anne-Rose, à vous aussi.
Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Radio Présence se mobilise pour la venue du pape Léon XIV. Émission spéciale, reportage, retransmission. Suivez du vendredi 25 au lundi 28 septembre la venue du pape Léon XIV en France sur Radio Présence.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors aujourd'hui, on va prendre de la hauteur, hein, puisque notre destination, c'est quand même deux grands monuments des Pyrénées.
Oui.
C'est le Pic du Midi et la Brèche de Roland.
Oui.
Qui sont magnifiques. Alors aujourd'hui, nous allons au sommet, je l'ai dit, du Pic du Midi, et nous irons faire un tour du côté de la Brèche de Roland en compagnie d'une Altesse royale, et
oui,
pas n'importe qui, la Duchesse de Berry.
C'est ça, Philippe. Et dès que son voyage dans les Pyrénées est annoncé officiellement, les préfets, les maires, les conseillers municipaux s'activent, parce qu'il faut recevoir dignement la Duchesse de Berry, qui est aussi la mère du jeune duc de Bordeaux.
Ah bah oui, on s'empresse de faire d'ultimes travaux et de prévoir des réjouissances. On organise des bals, des gardes d'honneur à cheval, on dresse des arcs de triomphe, on sable des rues, on prévoit un ou deux réverbères supplémentaires et on décore des maisons.
Wow. Oui, et en même temps, on vernit aussi des voitures. À Luchon, le bruit du canon annonce l'entrée de la duchesse dans la ville et une foule enthousiaste se presse dans les rues.
Quand elle change de département, la duchesse de Berry change aussi de cortège. Elle est ainsi au col de Peyressourde, par exemple.
Oui, c'est ce qui va se passer, effectivement, au col de Peyressourde. Il y a tout un protocole à observer.
Déjà à l'époque.
Oui.
Le protocole est un petit peu léger quand elle fait des ascensions.
Voilà. On va le voir dans un petit moment.
Dans un petit moment. Donc, on ferme les yeux et on passe un petit moment agréable à écouter votre voix. On vous écoute, Anne.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
En 1828, Son Altesse Royale, Marie-Caroline de Bourbon, princesse de Naples et de Sicile, plus connue sous le nom de Duchesse de Berry, pour avoir épousé le duc de Berry, second fils du roi Charles X, séjourne pendant près de 2 mois dans les Pyrénées. Pierre de Gorce, avocat et historien, a relaté ce séjour compris entre le 18 juillet et le 31 septembre 1828, au cours duquel la duchesse de Berry accomplit des ascensions, notamment celle du pic du Midi de Bigorre et de la Brèche de Roland. Le mardi 26 août, écrit Pierre de Gorce, par un temps superbe et sous un magnifique clair de lune, dès 4 heures du matin, Saint-Sauveur est en émoi. Dans les rues, ce ne sont que gens affairés, chaises et porteurs, chevaux et voitures. Madame a décidé de monter au pic du Midi de Bigorre. Elle part à cheval et atteint ainsi le lac d'Oncé. Là, mettant pied à terre, suivie de sa chaise à porteur et tantôt en cet équipage, tantôt à pied, elle gravit les derniers escarpements du pic. À 11 heures, elle est au sommet. Jamais chaise à porteur n'avait atteint cette cime. Plusieurs personnes de bannière l'y avaient précédé et avaient dressé une manière d'arc de triomphe avec des bâtons ferrés, des serviettes et des mouchoirs formant drapeau blanc. Après avoir admiré le panorama, pris une tasse de lait, Madame redescend jusqu'au lac d'Oncé où a lieu le déjeuner. Les dames qui l'accompagnent et les gentilshommes de sa suite y participent à ses côtés. On redescend ensuite vers Barèges où le cortège fait halte. Madame arrête alors les dernières dispositions à prendre en vue de la cure qu'elle va commencer dès le lendemain aux eaux de cette station thermale. À 10 heures du soir, la joyeuse caravane est de retour dans Saint-Sauveur où elle est chaleureusement fêtée. Cette excursion ne sera qu'une préparation à la grande course qu'on organise les jours suivants. Le 27, Madame prend son premier bain à Barèges. Le 28, elle reste à Saint-Sauveur, car à 2 heures de l'après-midi, elle monte à cheval afin de gagner Gavarny où elle ira coucher. À Gèdre, un arc de triomphe barre la route. Les douaniers forment la haie. On a imaginé de lancer un ballon montgolfière au moment de l'arrivée de la princesse. Le grand vent qui souffle empêche la réussite de cette attraction inédite. Madame a fort admiré la grotte de Gèdre et y a vu avec autant de plaisir que d'étonnement les truites sautant de bas en haut et remontant la cascade. Les chroniqueurs trouvent des accents si grandiloquents pour narrer cette excursion de Gavarny qu'il convient de leur laisser la parole. Le chaos, les cascades, les aspects tantôt riants, tantôt hideux, aucun de ces effets dont la nature est si prodigue en ces lieux ne peut être comparé à l'effet moral produit à Gavarny par la présence de cette auguste fille de Naples et de France dans une auberge de montagnards où elle a passé 2 soirées et 2 nuits dans une chambre à 4 lits occupée par elle et ses dames, tandis que l'autre chambre sur le même palier servait successivement de salle à manger pour elle et sa cour, puis de chambre à coucher pour les 5 gentilshommes admis par elle à l'accompagner et les valets de pied, piqueurs à livrer, gens de la maison, troupes de porteurs, balades d'enfants couverts de rubans, jeunes filles chantant et dansant, toute la soirée sur l'herbe devant l'auberge. Le 29 août, à 4h30, tout le monde est sur pied. Une caravane d'une cinquantaine de personnes se dirige vers le fond du cirque. Là, tout le monde descend de cheval pour commencer par un temps magnifique, l'ascension de la brèche de Roland, si fort redoutée par tous, si ce n'est par celle qui était l'objet de toutes ses frayeurs. Tantôt en chaise à porteurs et tantôt à pied, avec la chaussure en corde des Espagnols et armée de crampons sur la glace, Madame n'a jamais donné un indice de crainte ni de fatigue, pas plus en montant qu'en descendant. Le début du pic, pendant une heure et demie, du bas en haut d'une muraille de roc, l'interminable et roide pente de rochers et de gazon qui sépare cette montagne des glaciers, les trois traversées de neige glacée, fort inclinées, qu'il a fallu franchir successivement, et surtout la dernière corniche qui avait été faite dans la glace pure par des hommes armés de haches, envoyés à cet effet 3 heures avant, corniche sillonnée transversalement par de profondes crevasses donnant cours à l'eau, les chutes de pierres, de rocs et d'avalanches de glace faisant fracas, rien n'a intimidé la princesse. Elle est arrivée à la brèche sur les rochers d'Espagne à 11h, suivie de ses dames et d'une multitude d'hommes. S'il a été étonnant de voir des chaises à porteurs parvenues pour madame à la cime du pic du Midi, il a été bien plus merveilleux d'en voir 5 à la brèche de Roland. Tous ont déjeuné de bon appétit sur la brèche et la descente a été longue et pénible. Son Altesse Royale, remontée à cheval au cirque, n'en a pas moins galopé dans le cours de son trajet de la cascade à l'auberge. La duchesse de Berry terminera son voyage dans les Pyrénées en visitant Bagnères-de-Bigorre et Luchon. Elle n'était pas toujours à cheval et circulait parfois dans une voiture tirée par plusieurs chevaux et couverte de valets de pied. Le passage retenu a été écrit par Pierre de Gorce et il a été extrait d'un article paru dans les Annales du Midi en 1936 et intitulé « Deux mois dans les Pyrénées avec Marie-Caroline de Naples, duchesse de Berry ».
Voilà Anne, grâce à notre machine à remonter le temps, nous avons parcouru les Pyrénées à cheval et en chaise à porteur.
Et en grande et belle compagnie.
Ah oui, 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 tout à fait. Pour regagner Paris, la duchesse de Berry fait halte dans une ville que vous connaissez bien.
Oui, après avoir passé 2 jours à Toulouse, la duchesse de Berry s'arrête à Montauban, où là encore, elle est dignement fêtée. Un mât de cocagne est dressé, un feu d'artifice est tiré.
Elle assiste à la messe et l'évêque de Montauban, Monseigneur Dubourg, la reconduit sous le dé jusqu'à la porte de la cathédrale. Elle visite aussi la maison royale des Dames Noires, maison d'éducation de jeunes filles.
Oui, et même si elle reste peu de temps, elle visite aussi l'école de dessin linéaire et de géométrie mécanique. Et j'en passe, car dans chaque ville, son emploi du temps est très très chargé, Philippe.
Ben, j'imagine, et puis à l'époque, on n'avait pas ce genre de visite tous les jours non plus.
Et oui.
Et la semaine prochaine, ben, nous irons à Barèges, au début du 19e siècle, en compagnie d'Arnaud Abadi.
Quelqu'un du coin.
Du coin, ben, les Abadi. Il y en a des Abadi dans le coin. Alors c'est Abadi avec un B.
Un seul B, oui.
Voilà, parce qu'on a aussi des Abadi avec deux B.
Oui, Philippe.
Voilà. Merci beaucoup, Anne Lasserre. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Tes petites piquettes qui collent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, je m'accroche à tes prunelles. Tout le 14 juillet, tu brilles des mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois je veux partir, voyager, voir du pays. Je reviens pour ton sourire.
ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. Jamais le tour de France. J'aime tes petites places, ricards et puis pétanque. M'asseoir à tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. À ton petit caractère, quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis, on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors, on reste solidaire. Chaque fois que je veux partir, voyager fort du pays, je reviens pour ton sourire.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Tristesse et prière du pape pour les victimes des inondations qui ont frappé hier le Népal et le Tibet.